Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers. Une émission proposée par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Aujourd'hui, Philippe Solers, voyageur de son temps. Philippe Solers, grand lecteur de textes, amateur de solitude, n'en garde pas moins un œil attentif, acéré, inquiet, moqueur, c'est selon, sur les hommes et les femmes d'aujourd'hui, sur les mœurs politiques, sur les évolutions économiques et sociales, sur les grandes catastrophes de ce monde. Il a toujours été dans les grands journaux nationaux, chroniqueur, observateur critique, le Nouvel Obs, le journal du dimanche aujourd'hui. Rien de ce qui intéresse les médias ne lui échappe.
Nous sommes dans le journal du dimanche, dernier dimanche du mois, par exemple le 30 mai 2010. Euro. Vous êtes inquiet, je vous comprends. Où va l'euro? Qui contrôle l'euro? Comment allez-vous rembourser 750 milliards de dettes? Vous voyez arriver partout des plans de rigueur, en Grèce, au Portugal, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne. Vous attendez un miracle, un homme providentiel, un sauveur, un messie, de gauche, bien sûr. Eh bien, le voici, DSK, lui-même, qui devrait bientôt être nommé gouverneur des finances mondiales. Assez de tergiversations, de conflits personnels, de plans sur la comète. Le gouverneur vous parle depuis lui, Washington. Il est lumineux, prolixe, intarissable. Il parle d'argent comme personne. On voit défiler sous ses yeux des millions de milliards virtuels qui s'évanouissent, mais pour votre bien, dans la nuit. Être un jour président de la République est une ambition bien trop locale et modeste pour un gouverneur né. Une fois élu, le sauveur pourra regarder en face la Chine accélérée, le Brésil ascendant, l'Inde en hausse constante. DSK, c'est Obama sans les inconvénients de la marée noire en Louisiane et Sarkozy sans les embarras des sondages. C'est un destin séducteur en marche. Et les populations n'ont qu'à suivre, comme elles peuvent, en s'occupant de leur retraite. La bourse a voté. Mars 2009. C'est décidé, il le faut. Je prends en main en secret la communication du pape. Assez de criailleries, de pleurnicheries, un peu d'autorité, que diable. D'abord un coup de balai. Les renseignements sont nuls. Le service de presse somnole. On a eu tort de freiner les jésuites, à moins qu'eux-mêmes se soient endormis à l'ombre de l'Opus Dei. Et voici mes premières mesures. D'abord, nouvelle excommunication du sinistre négationniste Williamson, avec excommunication automatique des évêques qui ne ratifieraient pas cette sanction. Ensuite, messe solennelle à Rome en l'honneur de la fillette brésilienne, violée et enceinte de jumeaux par son beau-père, accompagnée par sa mère avorteuse, réhabilitée. De là, je passe à une distribution massive et gratuite de préservatifs préalablement exorcisés. Je continue avec la nomination d'une douzaine d'évêques gays, mais pas pédophiles, avec autorisation de prêcher l'amour sous toutes ses formes dans les cathédrales du monde entier. Un clin d'œil aux orthodoxes, un autre aux bouddhistes, un éloge furtif de Mahomet, un voyage triomphal en Israël avec repentance renouvelée et un bémol sur Jésus-Christ, lequel a peut-être trop forcé son opposition au rabbinat de l'époque. Pour finir, je ramasse l'adhésion des protestants en annonçant un concile Vatican III avec élection démocratique d'un nouveau pape enfin moderne après les primaires rassemblant plus d'un milliard de votants. Benoît XVI n'a qu'à dire qu'il a eu une révélation et que son nouveau programme, un peu surprenant au premier abord, lui vient directement de Dieu. Si, après toutes ces mesures immédiatement célébrées par les médias, je n'obtiens pas un renversement des sondages à 80% d'opinion favorable, je démissionne. Mais là, coup de théâtre miraculeux. La Vierge Marie apparaît à Lourdes, à une fillette illettrée, violée par son père et son beau-père, et se prononce au nom de l'Immaculée Conception, pour la contraception, l'avortement, le remariage religieux des divorcés, l'homosexualité, l'homoparentalité, le préservatif exorcisé, et même pour ma béatification future. Je rédige rapidement le récit de la petite paysanne, le livre fait un tabac et je verse intégralement les droits à l'église catholique clandestine de Chine qui a des difficultés majeures, loin du règne obsédé de la sexualité. Toujours dans le journal du dimanche, décembre 2009, minaret. Seriez-vous vraiment gêné par l'éclosion de centaines de minarets en France? Vous pesez le pour et le contre. Vous vous méfiez des Suisses qui ont voté contre. Et on ne peut pas vous en vouloir, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous interroger sur ce que la Suisse cache. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous préférez Mahomet à Calvin. Non, mais les minarets peuvent être décoratifs et même élégants, alors que vous constatez chaque jour la laide lourdeur de tas de tours accablantes. Et la burqa, l'enfermement des femmes, cet obscurantisme rampant, là vous prendrez position, j'espère. Pas de problème, laïcité stricte, ce miracle français. Noël, à la rigueur, le Père Noël, les enfants, les sapins, les cadeaux, les fêtes, les messes tolérées et d'ailleurs utiles pour accroître en douce le taux de fécondité. On ne va quand même pas demander à quelle identité nationale appartiennent les crèches. Clochers, minarets, synagogues, temples bouddhiques, tout cela est un petit problème d'urbanisme à gérer. Les Suisses ont peur, ils ont tort, ils ont quelque chose à dissimuler. Dernière question. Êtes-vous pour ou contre l'enseignement de l'histoire dans les terminales scientifiques? Oh, écoutez, l'histoire, c'est peut-être intéressant, mais ça crée sans cesse des histoires. Pourquoi s'encombrer de toutes ces vieilleries? Le passé est culpabilisant, l'avenir incertain. Seul le présent est sûr.
Dans vos dernières chroniques, en tout cas les plus récentes, mais peut-être le faisiez-vous déjà dès le début, notamment celle du journal du dimanche que vous avez citée, vous aimez bien vous adresser au lecteur. C'est une manière de le secouer, de le provoquer, de le réveiller, ou bien vous vous en fichez un peu de ce qu'il pense?
Il me semble que c'est la bonne façon d'opérer, dans la mesure où on le prend à partie, on l'implique dans le jeu d'une ironie qu'il comprend plus ou moins, on va chercher ce qu'il a dans sa tête plus ou moins confusément, ses préjugés, son... et on renverse les propositions de telle façon que tout à coup il se demande s'il n'est pas un peu roulé dans la farine. Cette farine me plaît. Et le retour est considérable, hein, c'est-à-dire que ce sont des chroniques qui sont soit reprises à la radio, etc.
Le courrier aussi?
Le courrier, oui, le courrier.
Ça réagit?
Un courrier, en général, très agressif. C'est-à-dire le courrier qui vous arrive comme si vous aviez dit quelque chose au premier degré. C'est-à-dire que l'ironie n'est plus comprise. Elle l'aura été, moins qu'on croit. Et que maintenant, chaque fois, il faudrait peut-être mettre ici ironie, vous voyez, dans la marge, ce qu'on appelle un point d'ironie. Attention, parce que les choses sont prises parfois au premier degré. Or ça, c'est très intéressant à vérifier.
Le regard justement que vous portez, parce que vous êtes très intéressé au fond par l'époque dans laquelle vous vivez depuis toujours, vous vous considérez aussi comme journaliste, comme chroniqueur, comme...
Oui, je crois être de façon singulière, parce qu'il n'y a pas tellement d'exemples, il y en a. Un écrivain qui peut faire du journalisme. C'est en tant qu'écrivain que je fais aussi du journalisme. voyez, ces petites chroniques dont je viens vous parler, après tout, dans un roman, en évitant l'actualité trop visible, ça pourrait passer comme un paragraphe. Hein. Voilà. Donc c'est la même chose pour moi, c'est le même tissu. Mon modèle, au fond, c'est le bloc-notes de Moria, qui est un bloc-notes politique et plus que politique, métaphysique, très très important, d'une grande. Hein, je ne me compare pas, mais enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est parmi ce qu'il a fait de mieux. Sinon, excusez-moi, je lis vaguement les chroniqueurs, mais c'est vite fait parce que c'est pas ça.
J'ai en tête Bernard Franck.
Oui, Bernard Franck était un très bon chroniqueur, mais disons une fois sur trois ou quatre, dans la mesure où il s'encombrait beaucoup de restaurants, de petites choses anecdotiques et de trucs comme ça, sympathiques. Mais enfin, parfois, très très bon. Très, très bon. Il y a un autre chroniqueur qui est souvent très bon aussi, sauf s'il s'embarrasse aussi de restaurants et de voyages de presse. Là. C'est Besson, par exemple. Patrick Besson, c'est un peu dans le même registre. Cela, oui, c'est lisable. Le reste, en général, c'est du gris.
Alors, autre chronique dans laquelle je relève un terme, parce que très souvent, vous leur donnez des titres, toujours d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plusieurs... chaque fois, vous mettez quatre rubriques, c'est systématique, les quatre actuellement.
Je peux vous dire, par exemple, celle qui va paraître là, dimanche prochain. Nous sommes, sauf erreur, le 23 juin. La première rubrique, ça sera la France bleue. Tout à coup, à cause du foot, la France a des bleus partout. Voilà, c'est ça. Je vais donc attaquer la misère. Hein, par exemple, qui se dévoile là.
Hein. La France vient de se faire sortir de la Coupe du Monde.
Cette
du
équipe
football.
Nationale, on vient de découvrir que cette équipe nationale n'était que de l'argent déguisé en foot, au point que les autres équipes, plus dissimulées ou professionnelles, ont l'air anormales, puisqu'elles semblent prendre le jeu au sérieux. Il y aura, puisque c'est l'anniversaire, un paragraphe sur le 18 juin, appel ici Londres. Il y aura l'apologie d'un livre paru chez Bouquin Robert Laffont, parce que souvent je parle de mes lectures.
Très souvent vous parlez de lecture, absolument.
C'est un gros bouquin.
Et encore une fois, vous vous adressez aux lecteurs, vous lui dites comment oui, vous n'avez pas encore acheté ça, mais dépêchez-vous de le faire.
Prenez ce livre passionnant pour l'été. Voilà.
Et vous voyez.
Oui, c'est Shanghai, c'est Bouquin Robert Laffont, c'est un gros livre qui vient de sortir. Shanghai, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire. Vous avez là de quoi lire pendant tout l'été, des choses très passionnantes, parce que la Chine, ce n'est pas seulement la dévaluation du yuan et l'exposition universelle de Shanghai, c'est toute une histoire, et notamment cette ville qui est désormais la capitale économique de la planète, il faut bien le dire. Et puis après, vous avez un autre livre pour l'été, c'est la correspondance entre Diderot et pas entre, parce qu'il n'y a que ses lettres à lui, ce sont les lettres à Sophie Volant, qui viennent de reparaître intégralement. Et ça, c'est absolument délicieux. Diderot est avec Voltaire l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France et on aurait davantage à les réintégrer d'urgence dans le grand match symbolique en cours. Par exemple, il donnait rendez-vous à Sophie Volant, qui s'appelait Louise-Henriette Volant, hein, qu'il appelle Sophie, la sagesse, la philosophie, la philosophie, comme dans Portrait du joueur. Il lui donnait donc rendez-vous dans les jardins du Palais Royal sur le banc d'Argenson. Vous savez que c'est le début, vous rappelez, du neveu de Rameau. Enfin, bon, mes idées, ce sont mes catins. Phrase fameuse, magnifique. Bon. Alors, un jour, il lui écrit dans le noir à sa Sophie. Ils avaient rendez-vous là, en général. Ils sont amants, bien entendu. Il s'intéresse aussi beaucoup à sa sœur. Enfin, passons. Et voilà ce qu'il écrit. « Je continue à vous parler sans savoir si je forme des caractères. Partout où il n'y aura rien, lisez que je vous aime. » Bien. Ou encore, « Je sens à chaque instant qu'il me manque quelque chose, et quand j'appuie là-dessus, je trouve que c'est vous. Bon. » Voilà. Ou alors,
c'est beau, c'est très très beau.
Ah, mais c'est un écrivain magnifique. « On me trouve sérieux, fatigué, rêveur, inattentif, distrait, pas un être qui m'arrête, jamais un mot qui m'intéresse. C'est une indifférence, un dédain qui n'accepte rien. Cependant, on a des prétentions ici comme ailleurs, et je m'aperçois que je laisse partout une offense secrète. » On ne sait rien, vous savez, de Louise-Henriette Volant, cette fameuse Sophie Volant, quand même, des femmes les plus célèbres, à cause de Diderot, il y en a d'autres, on pourrait parler. On ne sait rien d'elle. Hein, elle a vécu de 1716 à 1784. Sauf qu'elle est restée célibataire. Y a-t-il lieu de dire pourquoi ? Non. On n'a rien, aucun document, aucune lettre, excepté son testament autographe, léguant à sa mort, à Diderot, je cite, c'est de sa main, « sept petits volumes des Essais de Montaigne, reliés en maroquin rouge, plus une bague que j'appelle ma Pauline. » Voilà. Vous vous rendez compte de tout ce qui a lieu dans ces simples mots ?
Et vous vous évadez à nouveau dans la littérature. C'est vrai que c'est assez fréquent dans les chroniques que vous faites. Mais si l'on revient à l'observateur...
La politique et la littérature. Ça, c'est le mot fameux de Morien. Je traiterai la politique comme si c'était de la littérature. Elle le deviendra aussitôt. Voilà. Le regard littéraire sur la vie politique est, à mon avis, très décapant, si c'est bien fait. Enfin, j'essaye de faire le mieux possible. Mais c'est très décapant. Tout simplement parce qu'on marque, encore une fois, par l'ironie, qu'on ne prend pas la politique au sérieux.
C'est vrai que vous parlez des hommes politiques
assez... La ménagerie
fréquente et très drôle. Et vous parlez de leurs noms, vous jouez du temps de Pompidou. Je me souviens, vous aviez écrit des choses assez drôles sur eux. Le seul nom de Pompidou vous inspirait beaucoup.
Être s'appeler Pompidou et être à la banque Rothschild, voilà, c'est, tout est là.
Et puis ensuite, bien entendu, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques. Hein. Portrait de Ségolène Royal,
assez délectable. Ah ben oui, mais... Non, mais alors là, il y a quelqu'un qui me plaît beaucoup. Bon, vous avez vu Madame Bachelot qui a fait pleurer les joueurs, paraît-il. Voilà, elle a fait pleurer en leur faisant un cours de dignité par rapport à la France et à leurs enfants. Tout à coup, ils ont pleuré. Et je viens d'écouter Madame Bachelot, qui est quand même très satisfaisante sur le plan rose, hein, très épanouie. Je change de chaîne et je la vois, mais très allumée, déclarant sa flamme à la Traviata de Verdi. Elle venait de faire pleurer les joueurs de l'équipe de France et tout à coup elle parlait, vous voyez, en culture, comme si,
elle est très
de la Traviata de Verdi. Elle était très émouvante, c'est la dame aux camélias, c'est tout ça. Elle est très très émouvante, vous voyez comment on peut changer de registre, entre ministre de la musique en même temps que l'espoir, etc.
On continue sur la classe politique un petit peu. Ségolène la classe, justement, c'est un article que vous aviez fait paraître. On va en citer quelques exemples, hein, mais c'est à vous après peut-être de vous arrêter sur l'un ou l'autre. C'était en pleine campagne électorale en 2007. Vous interrogiez aussi sur Chirac, qui vous a bien intéressé, Chirac, non ? Pour le côté un peu...
Abracadabrantesque.
Abracadabrantesque.
Pchit.
Vous titrez « À quoi sert Chirac ?»« Il réside, mais ne préside pas ».
Oui.
Et là, c'était
un
livre de Jean-Marie Colombani.
Le résident de la République.
Voilà,
c'est ça, oui.
que vous commentiez.
Ségolène Royal, ça me plaisait bien parce qu'il faudra bien qu'une femme un jour nous débarrasse de ce machisme républicain. Donc, ça avait bien commencé. Et puis, alors après, elle s'est trompée, quoi. Elle est devenue télé-évangéliste. Elle a cru que le spectacle pouvait être géré en spectacle. Et puis surtout, une erreur politique tout à fait grossière, c'est-à-dire croire à Bayrou, qui est désormais chez Sarkozy, comme tout l'aurait pu le laisser prévoir. Rappelez-vous cette scène extraordinaire en 2007 de Ségolène Royal dans la rue qui appelle Bayrou, qui lui dit de ne pas monter, comme s'il ne pouvait pas faire monter une maîtresse. Enfin, tout ça est ridicule. Tout à l'heure, je vais voir Martine Aubry. Je lui ai donné rendez-vous pour un film qui est en train de se faire pour la télévision, la série Empreinte. Je lui ai donné rendez-vous au musée Guimet, place d'Iéna, dans la salle chinoise. Donc je vais commencer par lui parler de la Chine, et après on va automatiquement en arriver à la France, et je vais essayer de l'interroger sur ce qu'elle pense de l'argent devenu fou.
Elle vous intéresse, Martine Aubry. Dans Ressources humaines, c'est encore une chronique que vous avez livrée récemment. Il fut un temps où la République française avait des présidents monarques. Nous en sommes loin désormais. Et il vaut mieux parler d'une entreprise appelée France, dont Nicolas Sarkozy est en somme le DRH, le directeur des ressources humaines. Oui. Et un peu plus loin, le DRH Sarkozy peut même compter sur l'assistante sociale qui monte, la solide et charmante Martine Aubry, les retraites. Voilà l'avenir sur lequel, bon an, mal an, on devra s'entendre. Mais l'air de rien, vous êtes complètement dans l'actualité. Vous suivez ça très près tout de même.
Ben oui, très près. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment les acrobates de la politique... C'est un sport redoutable. Donc, si par exemple un magazine de titre met en couverture « Est-il si nul avec la photo de Sarkozy ?», les ventes s'envolent, parce que les gens se diront « Mais bien sûr qu'il n'est pas nul. » Bien sûr, c'est pour ça qu'il est toujours là. Mais je garde mes distances, et l'ironie reste, mais chaque fois, j'essaye, comment dirais-je, c'est pas moral, j'essaye de faire honte à la façon dont ces gens-là vivent. J'essaye de leur faire honte, ce qui est impossible d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas honte, ils sont tout à fait à découvert, tout ça. L'argent coule à flot, les milliards voilà, disparaissent, reparaissent, etc. Vous savez combien gagne un jeune garçon de 12 ans qui refait des routes en Birmanie toute la journée sous un soleil de plomb, il met les pierres. Il gagne $1,50 par jour.
Avez-vous du mépris pour la classe politique ?
J'ai de mépris pour personne. Ce qui m'intéresse, c'est la... Le cynisme et la méchanceté, j'ai parfois même de l'admiration pour des gens qui sont à ce point malfaisants de façon innocente. Il faut comprendre comment ça fonctionne.
Et par exemple, ça vous intéresse de faire des commentaires comme on en lit souvent en ce moment sur ce que vous venez de dire, la France, l'entreprise France.
C'est la routine, vous comprenez ? C'est la politique comme routine qui est intéressante. Et finalement, la politique n'est qu'au service, ce sont des employés, disons les choses. Ce sont des employés des marchés financiers. Comme je le dis dans un roman, monsieur et madame les marchés financiers sont heureux de vous annoncer le mariage de monsieur Jean-Michel les marchés financiers avec mademoiselle Sophie les marchés financiers, et les enfants s'appelleront les marchés financiers. Il y a un autre nom de code, comme ça, c'est les gens. Vous savez, tout le monde dit les gens, les vrais gens, etc. Alors, monsieur et madame les gens sont heureux de vous annoncer le mariage de monsieur Jean-Pierre Légent avec mademoiselle Véronique Légent, etc. Et le mariage aura lieu. Etc. On peut, vous voyez, il faut capter simplement les clichés, les redites, et finalement, quel est le programme de tout ça ? Un asservissement sans précédent, puissamment aidé par la servitude volontaire. Ça fait longtemps que l'on a diagnostiqué, si on voit un peu le profond, qu'il n'y aurait aucun asservissement, ni aucun tyran. Appelons-le, il change de nom. Enfin bon, aujourd'hui, c'est le CAC 40 ou ce que vous voulez. C'est la bourse. Bien, il n'y aurait pas ça s'il n'y avait pas une acceptation fondamentale. Vous pouvez appeler masochiste si vous voulez, pourquoi pas, mais c'est bien plus profond. S'il n'y avait pas une acceptation fondamentale des plaignants.
Alors justement, votre chronique titrait « Espérance ». Elle tombe bien celle-ci, après ce que vous venez de nous dire.
J'espère qu'il y a un point d'interrogation, non ?
Pas du tout.
Ah non, alors c'est...
Il n'y en a pas, c'est un titre. « Espérance », c'est de vous. Qu'est-il permis d'espérer en ces temps de crise mondiale ? Plusieurs symptômes ouvrent la voie. Vous vous souvenez de celle-ci ? Les 750 000 visiteurs de l'exposition Picasso.
Ah oui.
File de 2 ou 3 heures d'attente, la nuit, par un froid sibérien jusqu'à 4 heures du matin. Ou l'incroyable passion pour Bach manifestée à Nantes, ou l'entrée triomphale des manuscrits de Guy Debord à la Bibliothèque nationale, etc. Vous citez comme ça 2 ou 3 choses,
oui, des choses
qui rendent des raisons d'espérer.
Des choses qui n'auraient pas pu avoir lieu, je ne sais pas, même 10 ans auparavant, ou 15 ans, ou 20 ans, des choses qui sont nouvelles.
Elles sont de nature différente quand même.
Oui, c'est un peu ironique ça aussi, parce que je dis d'abord que la foule qui attend la nuit, même, pour voir Picasso qui fait la queue, va aller très vite parce qu'ils vont se bousculer pour devant les tableaux et qu'ils verront rien, mais qu'ils se seront filmés imaginairement comme ayant fait une bonne action culturelle et que c'est pour ça qu'ils se pressent, comme s'il y avait un ticket. Voilà. Les manuscrits de Guy Debord à 200 000 euros, ben, je crois vraiment, c'est quand même extravagant pour quelqu'un qui a écrit La Société du Spectacle vous voyez, c'est quand même extraordinaire, voilà, une récupération considérable, etc. Je peux aussi ironiser sur le fait mais en même temps trouver ça étrange, sur le fait que les millionnaires chinois, qui sont de plus en plus nombreux, se poivrent au cognac Louis XIII, qui est une marque de cognac, et qui trouve ça admirable, donc ils viennent vers le sud-ouest, et encore mieux qu'ils vont, enfin ce sont des chiffres, hein, que la Chine sera la première importatrice de vin de Bordeaux, donc me voilà dans les bagages, et va dépasser de loin les plus grands importateurs qui jusque-là étaient les États-Unis et le Japon. Pour un pays qui, il y a 30-40 ans, était dans des convulsions tout à fait mortelles.
Oui, mais c'est un signe qu'on peut trouver positif. Alors, il y a certainement des excès parce qu'il y a des millionnaires qui vont profiter de ça de manière inconsidérée, mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui vont rentrer dans la culture du Sud-Ouest, que vous aimez tant ?
Mais bien entendu, il y a 1,3 milliard de Chinois. Je compte sur le fait qu'il y aura bien au moins... Oh oui, une centaine de millions de Chinois qui vont s'intéresser à travers le cognac à Louis XIII, puisque c'est là-bas. Et d'autre part, ça me suffirait amplement de 3 millions qui vont s'intéresser à mes livres.
Je pensais au vin, moi, mais un peu aussi.
C'est la même chose, c'est vrai, pour moi.
Vous avez accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, enfin beaucoup d'éloges, le livre de Claude Lanzmann. Nous sommes en février 2009, un titre mystérieux, Le lièvre de Patagonie.
Oui,
vous avez trouvé admirable.
C'est un livre excellent qui a eu beaucoup de succès.
Qui ne se lâche pas, roman foisonnant, Lanzmann et l'homme qui a regardé la mort en face. Et puis un an après, le même Claude Lanzmann qui attaque... assez violemment d'ailleurs, le Yann Karska, le roman de Yannick Hanel, que vous avez défendu et publié, prétend que vous lui avez annoncé la publication de ce livre un matin, un coup de fil, enfin bon bref, polémique, vous niez, rien de plus faux, etc.
Il a malheureusement
retrouve polémiste tout d'un coup.
Non, parce que regardez bien, d'abord je dis qu'il a pas dit la vérité alors qu'il m'accuse de mentir, finalement j'ai le double de la lettre que
donc
je lui avais envoyée, oui. Il prétend que j'ai fabriqué un faux, ce qui est quand même assez grave. Il prétend que je mens, ce qui est quand même assez grave, mais je ne lui en veux pas. Je finis d'une façon extrêmement précise, à savoir que la dernière phrase, c'est « J'ai pour règle, je crois m'en souvenir ».
Oui, bravo.
Allez-y, dites-moi.
Bravo. Mais voilà, le roman d'Hanel ensuite a eu beaucoup de succès et tout à coup, Lanzmann se déchaîne. Mais je n'en dirai pas plus, ayant pour règle de dire le moins de mal possible de mes anciens amis.
Voilà. C'est élégant, non ? Ça va.
Vous comptez parmi vos anciens amis. Vous avez beaucoup d'anciens amis ?
Ah oui, oui. Qui veulent parfois se réconcilier. Mais après tout, la vie est courte.
Actualité encore, Philippe Solaire. C'est là, on peut reprendre, mais parcourir un peu au fil des pages. Vous parlez du climat. Imaginez-vous, vous nous dites encore, vous nous parlez, imaginez-vous en ours blanc. Vous avez là encore, c'est Voltaire qui revient, parler de la catastrophe, du drame de Haïti, au début du mois de janvier 2010. Et là, vous l'avez comparé avec ce que Voltaire écrivait, son grand poème, Le désastre de Lisbonne.
Admirable.
Oui, oui. Les tremblements de terre d'Haïti, saisissant de relire aujourd'hui Lisbonne, ville engloutie en 1755. Et là, toujours le plaisir de faire renaître la littérature. Mais c'est un événement qui vous a touché beaucoup.
Les événements naturels me frappent beaucoup. D'abord, c'est vrai que je suis très sensible au climat et au temps qu'il fait. La météo m'intéresse beaucoup. Parce que je crois que ça vient de croire d'une habitude de marin. Hein, de considérer que le temps qu'il fait, quel est le vent, d'où il souffle, qu'est-ce qui... Voilà. D'autre part, les catastrophes naturelles, les colères de la nature, qui échappent absolument... à toute cause spirituelle, puisque Voltaire vous dit, où est ce Dieu-là avec ce désastre? Bon, parce que bon, il faut entendre les cris sous les décombres, bien sûr. C'est un poème qui a fait date hein, dans l'histoire de la pensée. Donc, comme j'ai eu à souffrir, non seulement des destructions de maisons, mais pas par la nature, mais enfin, mais j'ai vu souvent des inondations qui cernaient ma maison, des digues explosées, etc. Je suis très sensible aux catastrophes.
Là, vous parlez de l'île de Ré.
L'île de Ré, oui.
Encore récemment.
Je suis très sensible aux catastrophes naturelles qui n'arrêtent pas. Vous avez des tsunamis, des raz-de-marée, des choses comme ça. Les gens qui à l'île de Ré, par exemple, à qui on a dit qu'il allait y avoir une alerte rouge, on ne les a pas déménagés. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la côte, là. Ils se sont enfermés chez eux. Et puis, à 3h du matin, ils sont morts noyés dans leur lit. Voilà. Sauf ceux qui ont pu sortir par les toits. Les tueries, les massacres, c'est horrible. Mais c'est peut-être encore plus inquiétant quand on voit que la nature est absolument indifférente à la vie humaine.
Et vous concluez, après cette référence à Voltaire, « Dieu voit-il tout cela d'un œil indifférent ?» Vous dites que Dieu n'existe pas, sans doute, mais son remplaçant numérique fonctionne à plein régime et les banques ne se sont jamais si bien portées. Reste ce cri mémorable qui conduira Voltaire plus tard à l'ironie supérieure de Candide, ce petit roman étincelant toujours actuel. Toujours l'envie de nous faire lire et relire, au fond.
Candide, oui, il suffit de transposer. Et vous avez quelque chose de tout à fait brûlant d'actualité. Oui.
Donc en fait, quand vous regardez l'actualité, c'est toujours...
Un peu tout le temps. J'écoute la radio, je zappe la télévision. Je vais aussi souvent que j'en ai l'occasion sur des chaînes CNN, par exemple, qui est très intéressante à regarder, ou la BBC. En augmentant un petit peu les chaînes, si on a ce qu'il faut comme installation, on peut voir alors des télévisions ahurissantes, là, je ne sais pas, en Arabie Saoudite ou ailleurs, avec des femmes voilées. Il y en a quelques-unes qui viennent de démissionner. Vous avez vu d'une télévision, je ne sais plus laquelle, parce qu'elles n'étaient pas habillées comme il fallait. Le voile, etc. Enfin, c'est intéressant de voir apparaître, par exemple, Laurence Ferrari de TF1 avec un voile pour interroger l'Iranien un peu fou, là. Bon, c'est des jeux de rôle et... On peut capter comme ça au passage. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'anecdote qui surgit, enfin, ou le drame qui surgit, c'est la propension à jouer ces jeux de rôle, à être complètement prisonnier d'un système spectaculaire. Une de mes préférées ces jours-ci, c'est évidemment Roselyne Bachelot, sa voix vaccinée, si on peut dire, n'est-ce pas?
Mais là, puisque vous parcourez les différentes télévisions du monde, on va sortir un petit peu de France. Quand vous parlez du G20, enfin, de manière assez ironique, encore une fois, je n'y reviens pas. Vous vous arrêtez sur Obama.
Il y a un type étonnant quand même, enfin, que tout le monde attaque, tout le monde... Enfin, mais que moi, je trouve ahurissant de drôlerie. C'est Berlusconi. C'est le seul qui a l'air de se foutre absolument de tout quand il est dans ses réunions internationales. Il est détendu, etc. Il s'en fout éperdument. Et ça, c'est... Bah, et questo, l'Italia. Insomma, non? Et Obama me plaît aussi parce que c'est très, très intéressant de voir quand même comment ça... Il était accompagné de sa femme qui est visiblement sa mère. Bon, voilà. Il y a des moments comme ça. Par exemple, quand Bernadette Chirac sort avec son fils, c'est Chirac. C'est intéressant.
Mais alors Obama, c'est intéressant aussi parce que quand vous parlez du grand cirque, enfin quand vous élargissez à d'autres pays du monde, tout d'un coup, alors vous commencez par dire il est fin, élégant, il est racé, il est séduisant,
voyons,
il nous fait heureusement oublier son prédécesseur, tout
très,
ça très,
très
bien.
Bon acteur.
Et puis tout d'un coup, voilà, Obama, mais au fait, ne serait-il pas le premier robot de la grande politique, le Nice Brother?
Ben, ce n'est pas Big Brother, ça c'est le livre célèbre d'Orwell. Mais Nice Brother, c'est quand même oui, quelqu'un qui, encore une fois, est employé. Et on va, il aura des, avec son lobby d'armement, les militaires, ça, il aura des tas d'enduits, va, qui va essayer de dissimuler plus ou moins. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est ce qu'il y a derrière les hommes politiques, la politique, les hommes politiques. Bon, il y en a un qui est proprement fascinant, j'essaye de le voir le plus souvent possible. C'est l'inénarrable KGBiste des services secrets reconvertis, c'est Poutine. Il est épatant, Poutine. C'est Gazprom, vous voyez derrière, parce que Gazprom, c'est quelque chose. Il faut voir le gaz et le pétrole derrière les silhouettes humaines, qui sont simplement des prothèses de ces grands systèmes économiques. Et Poutine, faisant la leçon, par exemple, à Pujadas, qui essaye de l'asticoter, enfin, la télévision française, le service public, en disant, mais ça, vous n'avez qu'à regarder. Il lui dit, mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'assassinats? Les journalistes assassinent, c'est un sport national, la Russie. Ou en Tchétchénie. Bon, et alors l'autre lui dit, mais oui, mais et vous, vos prisons, comment ça va? Vous feriez bien de balayer devant votre porte? Il est bien, Poutine, un sang-froid inébranlable. Un type qui a été éduqué pour le froid polaire, avec qui on est très amis. Enfin, très très amis.
Je reviens au Nice Brother parce que vous ajoutez que vous ne voyez que l'impassible Hu Jintao pour avoir cette technique de...
Ah, alors là, on retourne sur les Chinois. Là,
et oui, qui toujours. Sont...
Ben, écoutez, oui, parce que avant de faire tressaillir ou frémir un Chinois qui vous dira, faites bien attention à ça un jour, qui si vous dit nous sommes, ou je suis vivement indigné avec un beau sourire, je suis vivement indigné, ça veut dire vraiment qu'il va...
Que vous risquez quelque chose.
Oui, qu'il va vous arriver des choses. Alors, Hu Jintao, c'était la rencontre la plus merveilleuse de drôlerie. Enfin, tout ça, c'est du Chaplin aussi. Vous savez, il faut mettre un peu le génie du dictateur un peu partout. Enfin, tous ces gens sont des paranoïaques tout à fait visibles, enfin, des fous. Et donc, Hu Jintao, lui, n'est pas fou du tout, parce que là, il a derrière lui toute une civilisation. La rencontre entre Hu Jintao et Sarkozy était du plus... C'est grotesque. Enfin, c'est Sarkozy arrive, il met quasiment les pieds sur la table, enfin, je ne sais pas quoi. Et l'autre. Voilà.
Il a une belle épouse.
Oui, c'est ça.
Dont vous parlez souvent aussi.
Oui.
Carla Bruni vous intéresse.
Oui, Carla Bruni m'intéresse beaucoup. Surtout, je prédis à Sarkozy qu'il aura des enduits lorsqu'elle cessera d'être à la mode. Parce que c'est. Un mannequin, ça va, mais trop. Non, je la trouve, tout le monde la trouve très belle, pas moi. Mais bon, on s'en fout. Non, un personnage qui m'intéresse, alors, on est un peu au-delà de la politique, qui m'intéresse alors vraiment, parce que dont je regarde le moindre déplacement avec une curiosité intense et une sympathie. Ça, c'est à cause de mon enfance. C'est, si vous voulez, oui, c'est la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre me plaît. Elle qui a toujours été à gauche de Staline. Sur la gauche de Staline. C'est clair. Personne ne veut le comprendre, mais c'est comme ça. Quand Staline existait, il avait une opposition de gauche résolue. C'était la reine d'Angleterre, la mère de la reine Elisabeth, qui m'a embrassé à Bordeaux.
Vous avez défendu Polanski. Enfin, défendu. Vous avez pris position assez clairement
Polanski. J'ai dit pourquoi tout le monde cherchait à se venger de Roman Polanski. C'est très très clair, c'est très net. Roman Polanski a fait un film qui s'appelle Rosemary's Baby, qui attaque directement le problème fondamental des sectes américaines, qui pullulent. Vous savez, voir le film de Kubrick, par exemple, Eyes Wide Shut. Eh bien, c'est ça. C'est pas son histoire de viol. C'est ça. Il l'a attaqué d'une façon extrêmement très vive. C'est un grand film. Il y a peu de grands films, mais celui-là en est un. Donc, on lui fait payer ça, tout simplement. Le puritanisme, en fait, sécrète des sectes secrètes. Voilà. C'est une question, encore une fois, métaphysique, religieuse, profonde. au lieu de taper tout le temps sur le pape, ce qui quand même finit par devenir barbant, parce que c'est très simple, il n'y a qu'à répéter toujours les mêmes choses, on ferait mieux de s'intéresser sur la prolifération des sectes de tout genre dans tous les domaines, et de la poudre de perlimpinpin, comme la scientologie par exemple. J'ai repris un article dans l'Éloge de l'infini que j'avais publié dans Le Monde, qui s'appelle « Scientofolie ». Bon, ça n'arrête pas. Si on regarde ça d'un peu près, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'argent aussi en cours. Là.
Alors vous défendez bien sûr la littérature, on en a parlé longuement, la peinture aussi. Vous avez parlé récemment de Picasso, mais on connaît votre passion.
Tous les arts, tous les arts. J'ai écrit un livre sur De Kooning qui s'appelle De Kooning, vite. Et je suis allé le voir dans l'hôpital où il était alors pour subir une cure de désintoxication, parce qu'on le trouvait dans un état éthylique grave, seul dans son atelier qu'il avait fait construire lui-même. C'est très impressionnant parce qu'il a fait construire son atelier en pleine forêt comme une sorte de bateau. Il est hollandais, c'est un des derniers peintres avec Bacon qui savait vraiment dessiner, parce que les peintres ne savent plus dessiner, comme vous savez, ils font des expositions. Ils font de l'animation culturelle sans savoir dessiner, ce qui me choque profondément. Mais d'abord, cet atelier dans la forêt, construit comme un bateau. Donc il descendait, il avait une sorte de pont, il descendait, il fonçait sur ses tableaux avec une rapidité d'exécution absolument phénoménale. Très beau, hein. Il faut voir les photos de Kooning, de Namot, il est magnifiquement beau. Et j'étais évidemment très attiré par ces incroyables women qu'il a peint en défiant l'Amérique puritaine. J'ai vu les entassements de journaux. Qu'est-ce qui découpait dans les journaux? Des bouches, des lèvres, des publicités pour rouge à lèvres, des choses comme ça. Une documentation de bouches. Parce que la femme est dans le paysage dans la femme. C'est-à-dire, tous les paysages étaient pour lui commencer par des bouches. Et ensuite, il y avait ce qu'il a réussi de façon merveilleuse dans des tas de tableaux qui font respirer la grande nature autour d'Islampton, Southampton, etc., Long Island, hein, où il allait beaucoup en vélo, beaucoup dans la campagne. Et c'est la signature. C'est très vilain de couler. Si vous regardez la signature à la chinoise de Kooning, vous voyez un geste d'une grande sûreté. Il détruisait beaucoup ses tableaux, qui valaient très cher. Ça rendait son marchand absolument fou, parce qu'il est arrivé, il avait détruit 100 tableaux. J'ai connu son marchand, qui était très, très sympathique, et qui m'a reçu d'ailleurs à Belleport, là-bas. J'ai un souvenir merveilleux de cette nature. J'ai vécu avec des De Kooning. Il faudrait dormir sous les tableaux. Il faudrait les avoir chez soi et dormir, les avoir dans sa salle de bain. Ou alors voir les sculptures en situation, les voir le matin, les voir le soir, toutes choses qu'on ne peut pas faire dans les musées, puisque vous êtes pressé par la queue qui vous interdit de regarder plus de une minute. Donc comme si on pouvait voir ça en une minute. Il faut du temps. La peinture demande énormément de temps. Il faut se familiariser. J'ai toujours dit que l'un des exercices principaux pour qui veut entendre la peinture, parce que la peinture s'écoute, c'est d'imaginer qu'on passe une journée ou deux jours dans un tableau. Essayez donc de vivre dans un Cézanne, par exemple. Ça va vous poser un certain nombre de problèmes, selon le... Essayez, pas un jour, enfin une heure. Mais alors, même pas une heure, allez, personne n'a le temps. Vous savez ce que disait Beecham, le grand chef d'orchestre, il dit, si j'étais dictateur, je forcerais les gens à écouter un quart d'heure de Mozart tous les jours. Ouais. Ça changerait beaucoup, là, je ne sais pas, tous les matins. Voilà. Donc, De Kooning m'a fait une très très forte impression de ténacité physique. Quand je l'ai vu, il était quand même assez ralenti. Il avait une seule, pas reproduction, je ne sais pas où il avait trouvé ça, dans sa chambre d'hôpital. C'était un geste de calligraphie japonaise. Donc là aussi, vous voyez un Hollandais volant qui va aux États-Unis, qui a eu sa nationalité américaine très tard, mais qui apporte avec lui toute la culture européenne et qui la reverse dans une invention magistrale et assez asiatique finalement. Et c'est un bon livre, je crois, dans la mesure où je l'ai fait, comme son titre, vite. Vous connaissez la formule de Gracian, vite et bien, deux fois bien.
L'autre musique dont on a peu parlé, je crois, dans tous ces entretiens, mais qui vous est chère aussi, c'est le jazz américain.
Oui, c'est ça. C'est la musique que j'ai écoutée très jeune, à 14 ou 15 ans, qui était pour moi une révélation complète de liberté. J'ai écouté du jazz avant d'écouter de la musique dite classique. Un concert de Louis Armstrong à Bordeaux. J'avais déjà lu de façon très très attentive un livre de Mesmero qui s'appelait « Really the Blues » et j'avais commencé à acheter des disques 78 tours dont j'ai alors une collection ébréchée quelque part dans une armoire, voilà, une grande grande collection. Et Louis Armstrong est venu à Bordeaux et ça, ça a été vraiment un choc considérable, notamment de voir comment il se mettait un mouchoir sur les lèvres après avoir tiré de sa trompette des sons suraigus, parce que, évidemment, ses lèvres claquaient de temps en temps, il y avait du sang. Le musicien là, qui a été très très longtemps et qui reste un modèle d'authenticité, de simplicité et d'émotion, c'est un clarinettiste qui s'appelle Johnny Dodds, qui joue avec Louis Armstrong très, très tôt. Et la clarinette, là, a été l'instrument que je voulais jouer. J'ai demandé à mes parents de m'offrir une clarinette, ils ne l'ont pas voulu, bien sûr, et j'aurais été peut-être un clarinettiste très modeste. Je tapais sur mon piano pour essayer d'imiter par la suite Thelonious Monk, Thelonious Sphere Monk. Le deuxième prénom de Monk, c'est Sphere. On se demande comment les parents ont trouvé ça, mais c'est intéressant. Donc la clarinette, instrument d'une nature tout à fait singulière, le souffle, etc. On comprend pourquoi Mozart, alors par la suite, je fais le lien avec ça, a aimé à ce point la clarinette. Bon, j'ai pris dans un roman qui s'appelle Le cœur absolu, le quintet avec clarinette de Mozart comme hymne un peu de la société du cœur absolu. Et puis, évidemment, tout le reste, c'est-à-dire les voix. La voix d'Armstrong, cette voix sortie d'on ne sait où. Et puis la grande Billie Holiday, et puis l'admirable Ella Fitzgerald. Et quant aux autres, je ne vais pas les énumérer, mais enfin, quand même, entendre Charlie Parker, encore aujourd'hui, me paraît prodigieux. Les gens qui n'aiment pas le jazz sont, à mon avis, sourds, pas seulement d'oreilles, mais de cœur. De même que je ne peux pas écouter très longtemps le bruit rock, de même, le jazz fait partie pour moi de la grande, grande invention du XXe siècle. C'est la musique créative, admirable, par son improvisation même. L'improvisation, là, est très importante. Et de là à la musique classique, alors plus tard, voilà, la transition s'est opérée tout à fait tranquillement.
Vous les écoutez indistinctement ou vous avez des moments dans lesquels vous aimez mieux
écouter, d'entendre du jazz ? Il y a des moments, où j'ai besoin d'entendre Billie Holiday. Il y a des moments où j'ai envie d'entendre l'affirmation imperturbable de Louis Armstrong. L'affirmation. De toute façon, le blues, en lui-même, en principe, c'est un cri de nostalgie, avec l'ancien esclavage derrière. Mais c'est un cri d'affirmation. Il y a d'affirmation profonde. C'est pas vraiment, vraiment charnel et cardiaque. Et quand je, oui, de temps en temps, je mets un peu de jazz, surtout Thelonious Monk, parce que avec Monk, vous avez autre chose que le piano. C'est indubitablement quelqu'un qui tape sur des notes sur un piano, mais avec un tel décalage, une telle boiterie géniale que vous avez l'impression que c'est autre chose que le piano. Un contemporain de Mozart a noté que lorsque Mozart se mettait au piano, il y a eu des gens qui ont vu Mozart jouer ses concertos ou ses sonates avec violon. Quand Mozart se mettait au piano, dit-il, c'était autre chose que le piano. Voilà. On pourrait dire la même chose pour Gould, c'est du piano, indubitablement, mais quel pianiste arrive même à la cheville de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est à la fois la musique elle-même, mais surtout la part donnée à l'instrumentiste, sa liberté, surtout dans le jazz, c'est-à-dire, tout à coup, c'est le solo qui part, et bon, alors tous les grands solistes, on pourrait les énumérer, Lester Young ou d'autres, c'est Ben Webster, ou alors ce musicien prodigieux qui s'appelle Johnny Hodges, qui est une délicatesse, d'un fruité de son tout à fait extraordinaire. C'est là où, tout à coup, entouré d'une section rythmique, enfin, bon, poussé en avant par un petit groupe, tout à coup, voilà, il faut inventer quelque chose. C'est l'invention et la liberté même.
Vous parlez d'une génération de très très grands musiciens. Et celles qui ont suivi ou celles qui ont suivi, parce qu'il y en a plusieurs, est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe aujourd'hui ou même en remontant, Chet Baker, par exemple, je pense
Chet Baker, oui, mais oui, bien sûr. Mais enfin, je crois que c'est clos assez vite. Il y a une floraison absolument ahurissante. Et puis on s'éloigne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette impression de sortie du noir vers le bleu. À partir du moment où il y a une émancipation, etc., c'est... Remarquez que, oui, là, les musiciens ne sont pas connus, mais j'ai passé des heures... lorsque j'habitais New York, dans des clubs de jazz, notamment au Sweet Basil, qui se trouve au bout de New York. Et j'allais là le soir pour manger quelque chose et écouter les improvisations qui pouvaient durer 3 heures. On partait à 3 heures du matin. Pour retrouver cette musique, et surtout puisque la plupart des gens qui venaient là étaient noirs, l'élégance étonnante de cette population noire aux États-Unis d'Amérique. C'est pas parce qu'il y a un président là, un peu noir qui est là que je dis ça. Pas du tout. C'est-à-dire, ça m'a l'impression physique la plus forte que j'ai eue à New York, c'est la population noire, indubitablement. Plus libre, plus élégante.
It spells the thrill of first nighting, glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel
qui écoute vraiment la musique. Il y a de la musique, on écoute, oui, ah oui. Écoutez très très précisément la musique, c'est vraiment une concentration. Quand j'écrivais mon livre sur Mozart, pour bien aller dans le livret, dans la langue elle-même qui parlait, parce que les livrets de Mozart sont absolument admirables, il faisait très très attention. La plupart du temps, les gens vous écoutent, ah oui, j'étais à l'opéra, ils ont écouté Don Giovanni, viva les femmes, viva le bonvin, ils font pas attention qu'il y a toute une philosophie transmise par le livret même. Ça, c'est l'invention de Mozart, comme ça a été en peinture l'invention de Watteau. Tout à coup, on n'est plus dans la mythologie, on est directement avec ce qui se passe de son temps. Ce qui se passe de son temps désormais en musique, c'est, vous savez bien que c'est le rock. Il y a toute une génération, deux générations, trois générations habituées. Pas un seul écrivain qui ne donne ses références de musique rock. Voilà. Moi, ça m'a jamais intéressé. C'est trop. Le son n'est pas assez distinct. Les voix sont stéréotypées. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, je rentre dans mon studio.
Vous faites un lien entre Bach et le jazz?
On l'a fait à propos de Gould notamment. Oui, mais ce lien va dans l'énergie rythmique affirmative. C'est vrai que vous écoutez Bach et c'est la moins romantique possible des musiques. Et c'est pour ça qu'elle me plaît.
Donc vous faites ce lien aussi. Enfin, c'est peut-être pour ça que les deux vous plaisent.
Et le jazz aussi, c'est la moins. Encore une fois, c'est une question d'affirmation. Et non de pleurnicherie sentimentale.
You need no castles in Spain.
Un été avec Philippe Solers. Une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son Tanguy Le Corneau. Mixage Marie-Thérèse Ferrand.
It's good to live it again.
Nous nous retrouvons demain dimanche pour notre 10e rencontre. Lire, c'est entendre.
That brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands. It's autumn in New York. It's good to live in.